9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Radio Primitive.
C'est bon, vous l'aurez voulu. Après, ne venez pas pleurer.
Bonjour, bienvenue dans Radiocratie. On est lundi 30 avril 2018, il est 18h et on est en direct depuis le studio. Vous écoutez Radiocratie comme tous les lundis de 18h à 19h sur Radio Primitive. Fréquence 92.4 à Reims et via radioprimitive.fr partout ailleurs. Aujourd'hui, l'émission porte le numéro 116 et je vous rappelle rapidement que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook qui s'appelle tout simplement Radiocratie. Vous pouvez nous écouter les podcasts de l'émission et le mail c'est radiocratie@gmail.com. Donc le 30 avril en 1337, c'est la date qui est traditionnellement retenue pour marquer le début de la guerre de Cent Ans. Je sais, ça commence fort. C'est aussi le 30 avril en 1945, le suicide d'Adolf Hitler dans son bunker de Berlin, assiégé par l'armée rouge. Dans un registre plus léger, c'est en 1988 à Dublin que Céline Dion remporte l'Eurovision à l'âge de 20 ans. Pour les naissances du 30 avril, il y a celle du roi Philippe III de France, dit Philippe le Hardy, en 1245. En 1651, de Jean-Baptiste de La Salle, ecclésiastique français et innovateur dans le domaine de la pédagogie. En 1952, de Jacques Audiard, fils de Michel Audiard. De Nicolas Hulot, en 1955. En 48, de Jacques Jakubowicz, dit Jackie, du Club Dorothée. Et celle de Lars von Trier, en 1956. Et pour finir, en 1982, celle de Kirsten Dunst, actrice américaine, qui a d'ailleurs joué dans un film de Lars von Trier. C'est aujourd'hui le 30 avril 2018, une date mémorable pour Radiocratie, puisque c'est aujourd'hui qu'Étienne a décidé de partir en vacances. Il n'est pas là, et c'est bien la première fois qu'il se permet ça. Donc j'essaierai de ne pas saborder son émission. Moi c'est Gilles, ancien régisseur, et je suis là pour vous servir. Radiocratie, c'est une semaine sur deux des débats, discussions, chroniques. Et une semaine sur deux, c'est de la musique. Aujourd'hui, une émission pendant laquelle on va parler de la représentation de la culture geek dans les médias mainstream. Des jeux de cartes à collectionner et de l'avenir du jeu de société. Il y aura évidemment notre traditionnel blind test de fin d'émission, qui sera dédié aux musiques de jeux vidéo. Ce soir, les chroniqueurs qui seront présents pour votre plus grand plaisir et accompagner vos oreilles jusqu'à 19h viennent de s'installer autour de la table ronde. Alors je vais vous les présenter, voici nos compères. C'est un chevalier au cœur des ténèbres qui boit du coca artisanal jusqu'à minuit pour être frais et dispo dès 9h30 le matin en écoutant les Butcher Babies. Voici notre Boris National.
Salut à tous.
C'est sa première fois dans Radiocratie, ne le secouez pas trop, il carbure à l'angina. C'est un Jim Carrey sous perf de Radiohead. Quand on lui parle d'Ocarina, il répond « Zelda ». Voici Blaisou.
Bonjour.
C'est un Bushi de l'eau qui suit la voie de la sagesse. Il se couche à 21h et paf, du coup, il loupe le dernier film avec Sylvie Testu, qu'il voulait voir. Mais se console en mettant une chanson calme du groupe Ultra Vomit au réveil. C'est un habitué, voire un pionnier de l'émission. Voici Séraph.
Bonsoir.
De retour parmi nous à Allo, tu joueras. Avant la 25e heure, se coucher, tu n'iras pas. De la bière rouge, tu ne boiras. Tu boiras. Du Mogwai, tu écouteras, car oui, c'est un peu notre Yoda à tous. Voici Polo.
Salut.
Il y a également, et pour finir, ce magnifique petit, trio, non, pour finir la présentation de mes compagnons, notre supportrice préférée, qui ponctuera nos chroniques de son charme et de son humour légendaire, voici Margot.
Salut.
Voilà, Radiocratie, le talk show qui fait le show. Alors, pour commencer, Boris, balance-nous le jingle. Respirez. Voilà, dans cette première partie, nous allons parler de la représentation de la culture geek dans les médias. Donc, je sais que... Moi, quand je prends ma voiture le matin ou le soir en rentrant du boulot, j'écoute souvent la radio. Et qu'est-ce que j'entends ? J'entends de la politique, j'entends du foot. Bon, ça, c'est les sujets récurrents. Alors, la politique, on va pas dire que ça sert à rien. On en a besoin, bien sûr, il faut en parler, il faut écouter tout ça. Après, le foot, c'est un peu l'opium du peuple. Moi, ce qui me déçoit, c'est que j'ai d'autres activités que regarder des matchs de foot à la télé. J'aime bien me réunir avec mes amis, boire un verre, mais aussi jouer. Voilà. Et j'entends pas assez souvent à la radio de sujets, donc j'avais envie qu'on en parle. J'entends rarement des sujets vraiment pertinents sur la culture geek. Et je m'ouvre à vous. Je sais pas si Séraph, tu es de mon avis ou si.
Oui, bien sûr. Oui, je pense que la culture geek, c'est une culture, enfin. Un peu difficile à définir déjà de prime abord, comme ça il y a plein de définitions, tout le monde se reconnaît pas dans chacune de ces définitions, mais c'est quelque chose qui touche quand même une grosse partie de la population, plus que la moitié en tout cas de la population. Et il reste assez étrange de voir que malgré une revendication individuelle de chaque personne pour cette appartenance à une culture geek, on a tous nos héros préférés, de pop culture, plus que pour parler de culture geek, mais on en a tous, hein, c'est assez rare les gens qui n'y connaissent absolument rien. Malgré ça, il n'y a pas vraiment de médias, d'émissions comme ça qui soient connues de tous et qui visent justement cette culture geek. Alors je pense que ça vient justement de ce côté un peu protéiforme de la culture geek qui va vraiment s'adapter à tous les sujets de la culture. En fait, c'est un mouvement, hein, plus que, je pense, une véritable culture. C'est un mouvement presque monomaniaque de certains aspects de la culture pop. Ce qui fait qu'en fait, on la retrouve un peu dans tous les médias, excepté peut-être en politique, effectivement. Ça, c'est peut-être le dernier bastion qui se défend encore. Mais même là, si j'évoque Astérix, on peut commencer à parler de culture geek, puisque c'est de la bande dessinée. Donc un sous-genre de la littérature, enfin une autre forme de d'expression, de médias, etc. Donc on va commencer à dire qu'il y a un héros, c'est de la BD, on est déjà un petit peu sur de la culture geek. Donc ouais, on n'a pas de on a une grande représentativité, je pense, de médias axés sur la culture geek. C'est simplement qu'on n'a pas vraiment une revendication de cette culture geek qui s'affirme aujourd'hui alors qu'elle est présente, je pense.
Boris. Alors déjà, ce serait bien de définir ce qu'est la culture geek. En fait, un geek, selon le dictionnaire, à peu près, c'est quelqu'un qui consacre 30% de son temps au monde de l'imaginaire ou à la technologie. Donc ça regroupe énormément de personnes. Le souci dans les médias traditionnels, c'est que souvent, la culture geek, elle est réduite aux jeux vidéo, des fois aux séries, etc. Et c'est abordé non pas comme la culture, mais comme un problème. Alors, je peux citer une vieille émission de TF1 qui est sortie dans les années... Non, M6, excusez-moi, Zone Interdite, qui est sortie dans les années 80, qui... cette émission a fait... excusez-moi, j'ai du mal.
Pas de soucis, prends ton temps.
Cette émission présentée... En fait, cette année-là, il y avait le cimetière d'Arles qui a été saccagé. Et il se trouve que M6 a trouvé la formidable idée d'accuser des gens qui font partie de la culture geek, c'est-à-dire les rôlistes, alors que l'enquête policière a donné tout autre chemin, c'est-à-dire des néo-nazis qui faisaient n'importe quoi. Et c'est souvent comme ça qu'est vue la culture geek, comme les jeux vidéo rendent violents, comme les jeux, ça rend addict, c'est un danger, et... très souvent dans les émissions, on a toujours ce petit spectre du danger de la culture geek, alors que à l'heure d'aujourd'hui, la culture geek fait partie de la culture populaire et elle est vraiment généralisée. Enfin, tout le monde est. Enfin, quand Avengers Infinity Wars fait autant d'entrées, la culture geek, elle est là. C'est la culture de masse.
Elle est présente. Je vois que Blaise réagissait à ta citation de Infinity Wars.
Oui, parce que. Quand on parlait de culture geek, je me demandais au début d'où venait le mot geek. Je pensais que, en fait, ça venait plutôt des gens qui venaient de la Silicon Valley. C'était des gens qui tapaient des lignes de code et qui étaient des gens qui étaient enfermés chez eux et qui avaient aussi, donc, ces centres d'activité qui étaient tournés un petit peu autour de l'univers de Star Wars, du Seigneur des Anneaux, des jeux de rôle. Et ça, c'était l'image que moi, je m'en faisais. Après, j'ai l'impression que le mot geek, il s'est un petit peu démocratisé, qu'on devient, comme tu le disais tout à l'heure, tous des geeks. Parce que, quand on voit le nombre d'entrées, comme tu dis, je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'est le nombre d'entrées qu'il y a eu pour Avengers, qui vient de l'univers du comics, ce qui qualifie un petit peu l'univers de, en tout cas des geeks venant des États-Unis, parce que nous, on parlait des bandes dessinées tout à l'heure, mais le comics, ça vient des États-Unis. ça donne l'impression que effectivement tout le monde est un petit peu geek. Alors, maintenant, il n'y a plus ce côté où on garde, où on est tout seul derrière son ordinateur. En fait, tout le monde a un côté geek. Enfin.
Alors, ce qui est paradoxal en vous écoutant, hein, c'est que bon, si je reprends Boris, c'est qu'à un moment donné, voilà, le geek est plus ou moins diabolisé, alors que paradoxalement, comme soutenait Blaise, on l'est tous un peu. Si on prend les propos de Séraph, finalement, il y a des médias qui sont multiples et donc il y a une diffusion quand même de l'univers geek. Mais finalement, quand on regarde au niveau de la représentation, je pense dans les émissions radio, par exemple, moi je n'en connais pas. Dans les chaînes télé, j'ai quelques exemples et quelques magazines très dédiés. Donc voilà. Tu voulais intervenir ?
Alors oui, je voulais rebondir sur Blaise qui parlait de l'origine du mot geek. À l'origine, le mot geek, c'est une insulte qui vient de l'allemand, qui désigne un fou, un espiègle ou toute personne littéralement folle. Et ça a été repris justement par les amateurs de monde de l'imaginaire comme une qualité.
D'accord. Très très bonne remarque.
Merci.
Et donc, tant qu'on en est à reprendre, je voulais repréciser un tout petit peu les choses. Je me suis un peu renseigné, par exemple, sur l'industrie du jeu vidéo. L'industrie du jeu vidéo, chiffre d'affaires pour l'année 2014, c'est 81,5 milliards de dollars. C'est deux fois plus que ce qu'a produit le cinéma, en fait. Un an plus tard, 10 milliards de dollars supplémentaires. Le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est en fait le premier média culturel au monde. Voilà. Donc de là à dire que les geeks sont une menace ou que ou qu'on est sur quelque chose de non, on est tous un petit peu, enfin, on est beaucoup plus
rien de marginal, quoi.
Voilà,
c'est le premier sujet de socialisation en France avant le sport.
Alors Polo, tu voulais?
Mais je suis d'accord avec ce que tout le monde dit ici, et c'est vrai que c'est plutôt qu'il y a un sentiment que encore maintenant en 2018 la culture geek est une culture alternative, alors qu'elle nous baigne complètement, puisqu'on le retrouve au cinéma. Tomb Raider est sorti récemment en film, c'est quand même une des grandes nouveautés de cette dernière décennie, de voir des jeux vidéo adaptés justement en film. Mais dans la culture, effectivement, dans les journaux télévisés ou les émissions spécialisées sur les grandes chaînes télévisées, il n'y a pas d'émission dédiée d'une part aux jeux vidéo ou même à la culture geek en général ou aux jeux. En fait, toutes ces informations-là, on les retrouve malheureusement sur Internet, qui reste un média de masse, mais il y a Internet permet encore d'avoir une culture alternative et le jeu vidéo reste d'une certaine manière encore attaché à ça. Alors que, comme on le dit, tout le monde est même joueur, puisque avec les applications sur smartphone, les gens dans le métro, dans le bus, je pense, donnent une part de leur temps à jouer à des petits jeux, ne serait-ce que même à Candy Crush ou à des Clash of Clans ou des choses comme ça.
En effet, Margot, tu...
Ouais, on essaye un peu de définir le terme geek, etc. En même temps, moi, j'ai l'impression qu'il y a autant, je me sens geek sur des choses. Que vous, mais pas sur les mêmes choses que vous autour de la table nécessairement. Enfin, selon les pays, les geeks sont pas les mêmes. Selon les âges, les cultures, selon les cultures, oui, vachement. Enfin, du coup, il y a autant de geeks que de personnes, un peu, je trouve aussi. Et du coup, moi, j'attendrais pas d'un magazine, d'une émission radio, d'une émission à la télé, de la même chose que vous nécessairement en plus. Donc, étonnant qu'il n'y ait pas plus de choses, puisqu'il y a tellement, malgré tout, de demandes et diverses en plus.
Ce qu'on est en train de parler, c'est le manque dans les médias traditionnels. Je vais donner un exemple tout simple. Ce week-end, il y avait un festival Reims des Jeux qui s'est passé à la Neuvillette. Il y avait des auteurs de jeux de rôle, des auteurs de jeux de plateau, des gens qui sont venus présenter leurs trucs. Alors, c'est un tout petit festival, mais l'Union, bof, France 3... région, non, personne. La représentativité de la culture geek, c'est aussi être curieux de ces choses-là.
Et puis là, ils sont tous deg autour de la table de pas être allé à ce truc-là, je l'ouvre.
Le week-end était très chargé. Par contre, c'est vrai que, voilà, moi, je vois un réel décalage. C'est-à-dire que tout le monde, une grande partie de la population joue, donc que ce soit jeux vidéo ou autre, une grande partie de la population s'intéresse à des comics, des mangas, des films, des séries, voilà. Par contre, c'est vrai qu'il faut aller chercher l'information, toujours. Il y a ce phénomène de prendre son clavier, d'aller sur Internet ou son smartphone,
Et les médias traditionnels, je pense. Bon, alors après, je pense qu'ils ont des grosses difficultés dans certains secteurs. Par exemple, pour les versions papier, on va être sur des magazines qui vont être dédiés soit à des jeux de cartes, soit à des jeux de plateau, soit à des films, soit à des séries. Justement, l'essor d'Internet a fait qu'ils ont pris une bonne claque au niveau financier.
Comme tous les magazines spécialisés, chasse et pêche ou autres. Enfin, voilà. Sauf que c'est encore plus prenant du côté de la culture geek parce que, le principal média d'un geek, c'est Internet.
C'est ça.
Alors que pour un chasseur, bon, Internet, voilà. Ça, si tu tires pas dessus, ça a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà,
T'as le chasseur 2.0, j'imagine.
Ouais, peut-être.
Dans ces magazines-là, il y a un petit ovni qui est sur la table qui s'appelle Présence d'Esprit. En fait, c'est un magazine dédié à la culture des mondes de l'imaginaire, donc ce qu'on peut dire geek. Oui, mais les auditeurs le voient pas. Et en fait, c'est une association loi 1901 qui l'édite et ça leur permet de sortir un petit peu du commerce. Faut juste sortir de leurs frais. Il y a aussi une offre sur Internet. Une offre entre guillemets. Ils proposent plein de services différents. Enfin, je sais pas comment m'exprimer. C'est une communauté avant d'être un magazine de passionnés. Tout le monde peut y participer et ils font des activités comme des centralisations d'appels à texte, c'est-à-dire que si t'as un univers, etc., que tu veux des auteurs écrivent, tu publies sur le site. Il y aura peut-être des gens qui vont participer. Ils proposent des ateliers d'écriture, des ateliers d'illustration et plein de petites choses en plus de ce magazine. Ce qui fait, c'est qu'autour de ça se cristallise une communauté assez forte, ce qui permet de vivre, contrairement à d'autres magazines comme Lotus Noir. Ils font la même chose en demandant aux lecteurs de les aider, si on peut.
Alors Lotus Noir, pour info, est un magazine donc qui traite des jeux de cartes et qui suivait essentiellement le jeu de cartes Magic. Sauf que en fait, il est décédé pour des raisons financières et il essaie de renaître actuellement via une plateforme de participation qui s'appelle Ulule. Au niveau des émissions télé, moi je peux citer Game One quand même, qui est une chaîne mais donc jeux vidéo hein, essentiellement. Et on a les mêmes difficultés qui sont rencontrées par No Life TV, une chaîne dédiée aux jeux et à la culture geek qui est en cessation d'activité depuis début avril. Donc voilà, on a des phénomènes comme ça. Donc il y a Présence d'Esprit qui lui part sur une asso, qui part sur quelque chose de plus ouvert et moins lié à l'argent. Comme disait Sierra, je pense qu'il a quand même tout résumé, hein, c'est que tout vient d'Internet et du coup finalement on retourne vers Internet et c'est un peu cyclique polo.
Et sur le sur Internet justement, ce qui est marrant, c'est que ces chaînes de jeux vidéo et aussi certains magazines dont moi j'étais abonné étant jeune, comme le mensuel du jeu vidéo, sont apparus en fait avec vraiment l'émergence des nouvelles consoles qu'on appelle nouvelle génération, enfin c'est-à-dire quand il y a eu la Wii, etc., des consoles qui d'une part apportaient un nouveau style de jeu et deuxièmement qui permettaient de jouer en ligne.
Oui.
Donc à la fois il y a cette ouverture au web qui a permis en fait une plus grande accessibilité aux jeux vidéo et permettre de mettre les joueurs en lien, et d'autre part qui petit à petit Internet a pris tellement de place que ces médias qui en fait ont pu s'en nourrir comme une chaîne télé ou des magazines se sont très vite fait prendre au jeu de l'information
qui était en décalage parce que ils n'arrivaient pas à réagir dans le temps imparti, quoi. En
c'est
fait, le temps de publication était
d'actualité.
Trop long. Voilà, je comprends.
À titre d'exemple, un jeu de plateau, enfin, pour, dans l'actualité, jeu de plateau, c'est une centaine de jeux de plateau qui sortent par mois.
Oui. Non, mais ce qui est énorme.
En tout cas, si certains auditeurs nous écoutent, connaissent certaines émissions, certaines émissions radio, surtout, ou des choses qu'on n'a pas citées, et des petites pépites, n'hésitez pas à nous les mettre sur le Facebook de Radiocratie. On serait ravis d'y jeter un œil.
Très bonne initiative, Marie.
Et surtout de le partager avec vous.
Oui.
On va passer à la partie suivante, Boris.
dungeons cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to find our long forgotten.
Ce Misty Mountain Scald, musique de, du Hobbit, du premier d'ailleurs, premier Hobbit. Donc dans cette seconde partie, on va parler des jeux de cartes à collectionner et notamment de Magic. Donc je vais commencer par une petite chronique ou un petit retour sur Magic, parce que c'est les 25 ans de ce jeu. Donc Magic l'Assemblée, en anglais Magic the Gathering, je prononce mal mais bon, c'est pas grave. Donc ça a été créé en 1993 par Richard Garfield. C'est environ 17 000 cartes différentes, soit 20 milliards de cartes imprimées entre 2008 et 2016. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Donc c'est la société Cartamundi qui les imprime, Cartamundi qui est basée en France et dans le monde un peu partout, qui peut les fabriquer. Voilà. 20 milliards de cartes, bon, ça, j'ai été un peu sur leur site et je trouvais ça rigolo quand même. Une carte fait en moyenne 8,89 cm, enfin en moyenne, elle fait 8,89 cm. Donc fois 20 milliards, ça fait 1,7 million de kilomètres au total, soit 4,6 fois l'aller-retour lune terre terre lune. Voilà. 45 fois le tour du monde. Les cartes font 0,3 mm de hauteur, donc si on les empilait toutes, elles feraient 691 fois la hauteur de l'Everest. Et je trouve ça énorme. Voilà.
Ça fait beaucoup, ouais.
Voilà. Dans une émission de geek, c'est rigolo de prendre des chiffres comme ça. Donc 1993, la première édition, c'était la limited edition Alpha, 295 cartes. Ça a commencé tout doucement. Il a créé ce jeu dans la thématique de on fait un duel entre deux sorciers. Et ces sorciers vont piocher des cartes, donc on utilise 60 cartes pour faire un jeu traditionnel. Et avec ces 60 cartes, on va poser des terrains. Il y a 5 couleurs de terrain qui représentent des plaines, des forêts, des montagnes, des marais, et j'oublie les îles. Voilà. Et avec ces terrains, on va récupérer de l'énergie. Et cette énergie va nous permettre de lancer des sorts. Donc avec cette énergie, on va invoquer des créatures qui vont se battre à nos côtés. On va lancer des sorts pour tuer l'adversaire à coup de points de vie. On a 20 points de vie chacun. Et celui qui tombe à zéro perd la partie. Il y a d'autres manières de gagner. On va pas s'étendre sur le sujet, mais voilà, Magic, c'est quand même... c'est encore en vie, voilà, ça fait 25 ans que ça existe. Il y a une plâtrée d'éditions, il y a des montagnes de cartes. Là actuellement, ils ont sorti le bloc Dominaria qui est sorti il y a 2 jours, voilà. Donc c'est aussi la raison de ce sujet. Dominaria, c'est aussi un retour aux sources, hein, pour leurs 25 ans, ils reviennent sur un plan, puisqu'en fait l'univers de Magic est régi autour de plans. Où il y a des planètes, il y a des histoires, il y a un background derrière, il y a du fluff, hein, comme on dit dans le métier. Moi je suis pas forcément sensible à ce background. Après j'aime bien aussi la nostalgie d'avoir acheté des cartes quand j'étais au collège et d'en racheter aujourd'hui et de retrouver les mêmes héros et de retomber un peu en enfance. Donc pour info, ce week-end on s'est mis une grosse session avec mon ami Blaise qui est à côté de moi et
on a un peu craqué. Ouais.
On a un peu craqué.
Plus de 10 heures d'affilée.
Voilà. Alors on s'est mis une grosse session. On s'est pris des boosters et on a fait comme à Noël en fait. Un booster, c'est une recharge de 15 cartes et on ouvre le booster donc qui est sous blister. Et dans ces cartes, on a des communes. Donc on a une dizaine de communes. On a des zones communes qui sont un peu plus difficiles à trouver. Après, on a des rares et des mythiques. Et il y a à chaque fois une rare dans chaque paquet. Et on passe les cartes en revue jusqu'à avoir la rare qui
déchire. Et chaque contenu du paquet est totalement aléatoire.
C'est ça, c'est aléatoire. Et donc voilà, c'est un jeu qui est extrêmement simple et extrêmement complexe en fait de par sa variété de jeux, ses mécaniques. Il y a énormément de mécaniques qui se sont rajoutées au fil des éditions et des ans. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'en parler, surtout que donc Seraph qui est là avec nous. Je l'ai entraîné la semaine dernière à l'avant-première.
Perverti.
Ouais, voilà. Perverti, c'est ça. Maître site.
Et donc, tu m'as pas fait découvrir le jeu non plus, que je connaissais moi-même depuis mon époque du lycée, ouais. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est quand même assez complexe et qui réunit beaucoup de bons ingrédients pour faire tenir des années et des années d'attention une personne, un joueur. Comme tu le disais, donc comme le soulignait particulièrement Boris, on a un effet de hasard au moment de l'achat du paquet de cartes parce qu'on sait pas sur quoi on va tomber, et donc ça va provoquer une attente qui va être soit frustrée soit récompensée. Donc pour le cerveau, ça c'est exceptionnel pour créer une addiction en fait au jeu en lui-même. On a
une
ce côté
fidélisation, s'il te plaît. L'addiction, c'est carrément autre chose.
Oui, non, je m'exprime de manière à ce que tous puissent comprendre. Je m'exprime pas face à des spécialistes. Voilà.
Ne vous tapez pas dessus, s'il te plaît.
On a le côté création du jeu seul, ça qui est hyper important, ce qui veut dire qu'en fait, quand vous avez vos cartes chez vous dans votre classeur, vous voulez vous créer votre deck, il va falloir que vous regardiez les cartes, que vous réfléchissiez, etc. C'est beaucoup de temps passé dessus, mais c'est du temps que vous passez seul, donc c'est pas un temps qui va mobiliser, enfin, c'est du temps que vous pouvez gérer vous-même, dans lequel vous êtes dans le jeu, et vous n'avez pas besoin d'avoir de participants adverses. Donc, pour s'organiser, c'est beaucoup plus simple, en fait. Dès qu'on a 10 minutes de libre, on peut regarder ses cartes et puis commencer à réfléchir au truc. Donc, on est toujours, en fait, un peu dans le jeu. Ce qui fait que le jeu ne nous quitte pas. L'autre partie, donc, c'est la partie, la vraie partie avec son adversaire, où on essaie de mettre une domination sur l'autre adversaire, notamment par le temps qu'on a passé à la construction de son paquet de cartes, mais également la manière dont on va gérer les cartes qu'on a dans la main. Et donc là, c'est toute la partie stratégie qui demande une attention, une réflexion sur le moment, qui donne de l'adrénaline, etc. Et des récompenses quand on réussit à faire une combo, c'est-à-dire plusieurs cartes qui vont avoir un effet cumulatif dans l'avantage que ça va donner. Tout ça va provoquer des poussées d'endorphines, des poussées d'adrénaline, etc., qui vont exciter le cerveau et qui sont en fait autant de moteurs addictifs, je suis désolé de le dire comme ça, mais au jeu, sans dire que ça déclenche forcément une addiction. En fait, tous ces petits ingrédients font que le jeu de Magic est très bien pensé et fonctionne très très bien. Donc c'est un bon jeu, quoi, tout simplement. Tout ça était positif hein, pour le jeu de Magic. Hein. J'étais pas en train d'essayer de le descendre. Je vois me regarder.
Je trouve que c'est une bonne alliance entre la part du aléatoire et justement et la création. Enfin, là, on en parlait tout à l'heure, mais moi, je l'avais un peu abandonné. Je l'ai découvert plus tôt, mais je le redécouvre des fois 2 ans plus tard. Les règles ont un peu changé, on les réapprend et on retravaille dessus. Mais le fond est le même. Ça veut dire que depuis 25 ans, en fait, ils ont gardé des règles qui fait que même si on arrête le jeu pendant quelques années, on ne le perd pas. On doit juste se remettre un petit peu à jour. Et c'est très agréable, je trouve, en tout cas, de se replonger un peu dans cet univers, malgré qu'on ait peut-être un peu perdu pendant quelques années.
Alors, voilà. Bon, je pense qu'on a bien senti l'intérêt de chacun et je pense qu'on a à peu près fait le tour de l'intérêt aussi du jeu, mais... selon vous, est-ce que voilà, 25 ans passés, c'est peut-être aussi le moment de faire un peu le point, parce qu'il y a des éditions online qui sont sorties hein, de Magic, plus ou moins gratuites. Des fois, il faut dépenser, des fois, c'est plus ou moins gratuit. T'as un phénomène comment on appelle ça ? Il faut jouer un peu tous les jours pour débloquer des cartes aussi. Il y a de la concurrence en face. On a plusieurs concurrents, donc papier et online. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que Magic a encore un avenir face à Hearthstone sur la partie online ou d'autres jeux cartes, Boris ?
En premier lieu, j'aimerais dire tout simplement, Magic n'a jamais eu de concurrent à sa taille. C'est les premiers arrivés sur le marché, c'est le plus gros marché. En face, on a Hearthstone qui joue en ligne, mais jouer en ligne et jouer en physique, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même public. Alors des fois, il y en a qui se regroupent, enfin il y en a qui jouent aux deux, mais c'est pas la même façon de jouer. Mais on a aussi Yu-Gi-Oh qui malheureusement s'est perdu dans des règles obscures et qui a perdu une énorme partie de sa communauté. Pokémon qui a toujours été un jeu de niche. Netrunner qui n'est qu'une, dirons-nous, une concurrence virtuelle puisqu'en fait c'est le même éditeur, Wizard of the Cold. Et Magic, on va dans n'importe quel magasin de jeux, il y a les boosters Magic et c'est vraiment le jeu qui est mis en avant.
Ils sont toujours là.
Ils sont toujours là.
C'est ça qui est assez incroyable. Okay.
Ils en ont encore pour quelques années, parce que comme le disait si bien Blaise, en fait, on peut oublier le jeu pendant 2-3 ans et puis revenir dessus, quoi. Ce qui fait que les gens qui décrochent se raccrochent facilement. Ils reviennent et remettent un peu dedans, quoi.
C'est ce qui nous est arrivé d'ailleurs.
Ouais, complètement. Je pense un jeu comme Yu-Gi-Oh ou autre, c'est peut-être plus dur quand on a passé 1 ou 2 ans sans y jouer de se remettre dedans. Moi personnellement, j'ai jamais joué à ce jeu-là, par exemple, donc je pourrais pas le dire exactement, mais.
Et au niveau des jeux de cartes évolutifs, parce que là, Magic, c'est un jeu de cartes à collectionner. C'est vrai que ça rajoute quelque chose. Il y a un phénomène de collection, quoi, que on veut avoir les cartes, on veut les mettre dans un classeur. Enfin, on veut. Hein. Certains, pas tous. Le jeu évolutif, ça va être beaucoup plus budget, c'est-à-dire qu'on va réduire un peu le budget, on n'a pas besoin d'avoir toutes les cartes tout le temps, c'est un peu différent. Qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, c'est un modèle économique différent. Le jeu de cartes à collectionner, ben il y a les boosters aléatoires qui donnent l'ivresse de l'ouverture du paquet, comme disait Seraph. Et le JCE, en fait, on achète un pack où il y a tout le temps exactement les mêmes cartes. C'est quasiment les mêmes règles avec les jeux de cartes à collectionner, c'est-à-dire en général, on peut pas avoir plus de 3 cartes du même exemplaire. Et là, économiquement, c'est beaucoup plus abordable. On a aussi la construction du deck. C'est vraiment une question. Moi, je pense que c'est plus une question de porte-monnaie et de préférence plutôt que de concurrence.
Ah, Polo.
Une question d'affinité aussi, parce que c'est vrai que Magic, j'ai toujours bien aimé jouer à ce jeu-là. Mais alors, d'une part, je connaissais les règles, mais partiellement. Enfin, c'est grâce à mes amis que j'ai vraiment découvert les règles. Et au final, c'est même par le jeu en ligne que j'ai principalement découvert les règles de base et puis un petit peu toutes les subtilités du jeu.
En effet, c'est un très bon didacticiel.
Bah oui, souvent les amis sont pas forcément les meilleurs didacticiels parce qu'ils trichent. Mais ça, c'est un autre sujet. Et tout ça pour dire que oui, en fait, ce qui me gênait avec Magic, c'était justement cette part d'aléatoire quand on ouvre un booster. Et puis voilà, je pense que c'est une affinité de jeu aussi. Moi, quand j'ai trop de possibilités avec mes cartes, je sais pas quoi faire. Ça me rassure pas. J'ai besoin d'être rassuré avec un espèce de base que je peux changer, comme on peut avoir avec
un jeu de cartes évolutif.
Voilà, c'est ça.
Qui sera plus toi, ton type de jeu. D'accord, très bien. Bah, Boris, on va passer à la suite parce que le temps passe vite. Un peu de pression. Le petit stage de Ken dans Street Fighter 2 fait toujours du bon. Allez, Ken. Donc, troisième partie, les jeux de société, concurrence et avenir. En fait, j'avais mis le stage de Ken parce que c'est un peu aussi les jeux de société VS le jeu vidéo, quoi. On a un rebond et un regain d'intérêt pour le jeu de société. Comme disait Boris tout à l'heure, il y a plus de 100 jeux de plateau qui sortent tous les mois. C'est quand même un énorme boom. On a des cafés qui s'ouvrent. On a pas mal de développement de ce côté-là. Et est-ce qu'il y a un match avec le jeu vidéo selon vous?
Alors, on va commencer par des chiffres si je peux.
Vas-y.
Je parlais tout à l'heure des 81,5 milliards de dollars en 2014 de l'industrie du jeu vidéo. En 2017, et uniquement pour la France, c'est 4,3 milliards de dollars de recettes. Pour le jeu de société, tout jeu de société confondu, on estime à 400 millions d'euros pour la part de marché. Voilà, sachant que la France est le plus gros, la plus grosse part de marché de l'Europe.
Donc c'est à peu près 20 fois moins que le jeu vidéo.
Voilà. Donc en termes d'industrie pure et de commerce et de monnaie sonnante et trébuchante et de tout ce qui plaira à nos amis capitalistes, le jeu vidéo écrase le jeu de société. Les gens préfèrent être chez eux seuls devant un écran plutôt que autour d'une bonne table avec une bonne bière et une partie de cartes entre eux, quoi.
Bon, 1-0 pour le jeu vidéo.
Le problème, c'est que quand tu vas dans des cafés-jeux type La Malle d'Apolline, ce que tu retrouves comme public en général, c'est des gamers qui jouent aux jeux vidéo chez eux et qui viennent faire du jeu de plateau là.
Oui, oui. Si tu les retrouves chez La Malle, ça veut pas forcément dire qu'ils ont acheté le jeu, justement.
C'est... Bah, La Malle d'Apolline permet de jouer sans pouvoir forcément acheter, mais on finit toujours tenté, croyez-moi.
Oui, en général, on a cet appât, c'est à côté, c'est facile.
C'est le principe du dealer de shit, en fait. On propose un échantillon gratuit et au final, la personne revient d'elle-même et finit par acheter, quoi.
Si tu le dis.
Bon,
tu
le, dis. Là, le parallèle est un peu particulier, mais...
Mais on dirait un peu la même stratégie, que ce soit pour le jeu société ou pour le jeu vidéo, du coup, là, parce que...
Oui, oui.
Tu vas faire des démos.
Ouais.
Et du coup, donc bon, on voit qu'on en est loin. Mais est-ce que pour vous, du coup, ce regain d'intérêt pour le jeu de société va exploser comme une bulle et à un moment donné retomber ou est-ce que on peut avoir un phénomène de pérennisation de cet intérêt, de ce côté sociable qu'on peut avoir? Vas-y, Blaise.
Moi, d'un point de vue plutôt global, je penserais plutôt qu'on a une tendance à, comme tu disais tout à l'heure, à rester chez soi ou seul. De plus en plus, on nous offre énormément de possibilités, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les jeux vidéo, de pouvoir s'amuser seul chez soi, seul avec son téléphone, seul avec plein de choses. Donc je suis pas sûr que le jeu de société, je vais pas dire qu'il a pas d'avenir, mais que on n'est pas dans cette tendance en fait à la réunion ensemble entre amis. Et peut-être qu'il y a une sorte de souche qui va naître et on va se remettre à jouer ensemble le soir, mais de plus en plus, moi je vois ça par exemple avec des amis qui disent bah non, moi ce soir je sors pas, je vais jouer à mon jeu ou mon jeu en ligne sur internet tout seul, ou faut que j'avance sur mon jeu d'histoire, ou voilà.
Puis je vais me faire livrer ma pizza parce que j'ai pas envie de mettre un orteil dehors, il fait trop froid.
Alors d'un autre temps, les pizzas, ça se partage. Hein.
C'est vrai.
Alors moi, j'ai un point de vue totalement opposé, c'est-à-dire dans notre société aujourd'hui, justement, on a un manque de sociabilisation. On n'a que le boulot, le machin. On est tout le temps tout seul. Et le jeu de société, ça permet de se réunir. Et enfin, cette explosion des cafés-jeux, des jeux de société, l'augmentation des jeux de société qui sortent, je suis pas sûr que ce soit une bulle. Je serais plus persuadé que ce soit une réponse à ce manque de sociabilisation et ce, enfin voilà. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Je pense qu'on n'est pas opposé. J'ai l'impression que moi, la tendance, ça veut dire, si je parlais pour les gens qui sont ici, je serais d'accord avec toi. Si je me mets à regarder la télé et à voir ce que je vois autour de moi, dans ce cas-là, j'ai pas cette impression, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que nous, on aurait cette tendance, ouais, effectivement, à vouloir se retrouver ensemble et jouer ensemble, plus que le reste. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Mais
les avis peuvent se rejoindre et peuvent être complémentaires aussi. Bon, on va finir sur cette partie-là, Boris. Allez, on voit la sauce.
Ok, j'envoie la sauce.
Un petit coup de Street Fighter pour achever le jeu de société qui s'est pris 2-0 dans la tronche. Donc on va faire un petit interview jeu, un petit portrait chinois geek de Seraph aujourd'hui.
Oui, bonsoir.
Donc, ah non, bonsoir. C'est bon, c'est déjà fait. Donc Seraph, si tu étais une musique de jeu vidéo.
Si j'étais une musique de jeu vidéo,
oui, il faut imaginer.
Je pourrais pas répondre à cette question.
Certes. Donc on va passer à la prochaine. Si tu étais un jeu de combat.
Si j'étais un jeu de combat, je choisis Final Fantasy Dissidia, premier du nom, sur PSP.
D'accord. Ok.
Parce que au moins ça regroupe d'autres jeux de Final Fantasy, bien sûr, mais et pas de combat en plus.
Ok.
Mais du coup. Voilà. Cette espèce de mix entre ce que tu es, d'où tu viens, tu sais. Dissociation mentale qui... Non, bon, je vais pas m'étendre plus loin.
Ne te justifie pas, tu as le droit.
Okay.
Si tu étais une carte magique.
Le duel de mages.
Le duel de mages. Parce que ça représente l'univers.
Un peu, et puis parce que comment, c'est une mécanique de jeu qui est basée sur le fait de, d'un seul coup, il faut sortir une pioche, lancer la pioche, une pièce, lancer la pièce en l'air, pardon, jouer à pile ou face. Et c'est cette idée de rejouer à un jeu, enfin, que le jeu t'amène à jouer à un autre jeu, que je trouve sympa. En plus, on réaugmente le niveau de hasard, et comme je suis très nul au niveau de hasard, que j'ai jamais eu de chance, c'est une carte qui m'a jamais servi à rien, mais que j'ai toujours voulu jouer. Notamment, j'ai jamais pu la jouer, d'ailleurs.
Oh, le jeu dans le jeu. Il faudra la jouer, alors. Ouais. Un jeu de stratégie.
Si j'étais un jeu de stratégie, je ne sais pas, tiens.
Moi, j'aurais dit le Go, mais...
Jeu de Go, ouais. Moi, j'aurais dit les échecs. D'accord. Mais on va garder le jeu de Go, t'as raison.
Ah, ouais, ouais, comme
allez.
Tu veux.
Ouais, allez, c'est bon.
Un animal dans un jeu?
Alors, si j'étais un animal dans un jeu, je serais Oamaterasu, la déesse soleil incarnée en loup, le loup Izanagi.
Le jeu s'appelle Okami, si tu le cherches.
Non, je sais, t'inquiète. Mais je me rappelle plus d'où... Parce que tout ça est issu de contes populaires japonais, et je me rappelle plus de quelle région vient ce conte de Izanagi, qui est donc un loup blanc qui vient sauver la fille du village. En accompagnant un célèbre Bushi affronter le démon Orochi, le grand dragon à 8 têtes. Enfin, c'est le folklore japonais, tout ça.
Quelle culture, c'est incroyable. Donc maintenant, pour finir, on va faire du tac au tac. Une femme dans un jeu.
Simus Aran.
Une arme dans un jeu.
Une épée.
Une boisson. Une boisson à boire dans un jeu.
De l'eau.
Un méchant dans un jeu.
Sephiroth.
Un héros dans un jeu.
Yoshi.
Bon, bah c'est pas mal. Hein.
C'était moi, pas une boisson dans un jeu, c'était une boisson à boire en jouant.
Ouais.
Tu restes sur l'eau ?
Ouais, je reste sur l'eau parce qu'en fait, c'est quand même la boisson qui a le moins de désavantages.
Merci
comparé
pour
à tous les autres.
Merci pour pour cette petite partie. Ok. C'est parti. Dédicace à Titi qui n'est pas là, la samba.
Et d'ailleurs, il m'envoie des photos de la Corse depuis tout à l'heure. J'ai un peu envie de les triper.
Donc, blind test musique de jeu vidéo.
Tu me dis quand t'es parti. Hein.
C'est parti.
Cave Story.
Nine.
Castlevania.
Oui, bien joué. Un point pour Seraph.
Attends, c'est moi qui compte les points.
Ah, je vous ai mis du lourd, hein, les gars. Voilà, c'est ça qu'on aime. Donc, deuxième Boris. Les tambours arrivent.
Je suis pas sûr. Morrowind.
Bien, ouais.
J'hésitais entre Skyrim et...
Et Pirates des Caraïbes, non?
Ah, il y a un petit peu. Hein.
Un peu, ouais.
Est-ce que tu crois que je vais trouver un truc?
On les retrouve un peu partout.
Tu peux trouver, ouais.
Parce qu'en fait, Skyrim, Morrowind et Oblivion sont exactement le même rythme.
Oui, bah après,
oui, c'est Elder Scrolls, quoi, de toute façon. C'est...
Ah non, Arena n'a pas du tout la même musique d'intro.
D'accord. Oh là là, débat, ça va se failliter encore.
Cache les réponses, Paul est fourbe.
Oui, je sais, je sais qui est
fort. C'est toi qui parlais de la tricherie, là, tout à l'heure, Paul.
Je connais ça. Beautiful Joe.
Nine. Après, vous n'êtes pas obligé de me dire le numéro, parce qu'il y a eu plein de jeux.
Final Fantasy?
Non.
Wild Arms?
Non. Ah, les gars.
Persona.
Dragon Quest.
Ah, t'as le début de la réponse.
Dragon Ball Z.
Ouais, voilà. Dragon Ball Z, Budokai 3.
Oh, d'accord.
Non, c'est moi qui ai trouvé.
Ouais.
J'ai un point.
Allez, Louis, la suite. On peut passer un peu de temps sur ce jeu.
Le silence se fait en tout cas.
Minecraft.
Non, non, non.
World of Warcraft?
Par contre, on peut crafter.
Oh, mais c'est Starbound?
Non.
Non.
Ah, je vais être obligé de...
Silent Hill?
Starcraft.
Donne un indice.
Non, je suis sûr que c'est un Craft and Survive.
Bon, alors, pour un petit indice, il est sorti en réalité virtuelle il y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'on peut mettre un casque et s'immerger dedans.
Ce serait pas Skyrim par hasard?
Non, mais c'est un univers ouvert et c'est les mêmes studios qui ont fait Skyrim.
Oblivion?
Non.
Fallout?
Fallout 4, c'est bien Boris.
Ah, d'habitude, c'est les musiques des années 20.
Ouais, ah ouais, mais j'ai mis quand même quelques récentes. Tu peux enchaîner. J'aime bien les tambours.
Final Fantasy VII.
Et plus
Cosmos Canyon.
Ouais, bien joué.
On sent le connaisseur.
Ouais, ouais, j'ai reconnu les tambours, quoi. Tu te rends compte que j'ai reconnu les tambours.
Ah, cette musique, elle est...
Ouais, elle est superbe.
Le jeu est superbe.
Ouais.
Mythique. Après avoir récupéré quel personnage?
Red 13.
Non, Red 13, tu le récupères beaucoup plus tôt dans la partie. Mais c'est le village natal de Red 13. De son vrai nom de Nanaki.
Oh, mais c'est pas Ketsin qu'on récupère?
Non, non, c'est à Goldsucker.
Ouais.
De mon point de vue de copine de gamer, je ne suis pas gameuse moi-même, je trouve que les musiques de Final Fantasy, elles sont... On peut les écouter longtemps avant d'en avoir sa claque, quoi.
On peut se mettre 100 heures.
Je les fredonne sous la douche ensuite, il est tout fier.
Ils en font des concerts, c'est pour te dire qu'il y a un vrai budget.
Après, on a fait une musicale dessus à Radio Crassi.
Bon, ça, c'est du récent, les gars. Et j'ai pas joué à ça d'ailleurs.
Overwatch?
Nine.
Récent comment?
Récent comme Overwatch. À peu de choses près. Moi je connais pas plus que ça, mais vu le phénomène que c'est. Hein.
Fortnite?
C'est ça. Bien joué, Boris.
Si c'était pas l'un, ça devait être l'autre marque. J'aurais dû y penser.
Polo est à la traîne.
Boris vous
à
explose.
La traîne.
Bah, quand il s'agit de jeux vidéo, ça passe. Hein.
Je fais zéro aussi.
Ah oui. Vous avez moins de points que moi.
Metal Gear Solid.
Voilà, voilà. Les années 90, c'est du long, ça.
Oui, effectivement, là, je. Oui.
Ça, c'est beaucoup moins supportable. Sur le long.
C'est clair.
Donc sorti sur PlayStation, hein. Moi je me souviens avoir rejoué trois fois au premier du nom parce qu'en fait tu finissais le jeu une fois, tu débloquais soit un bandana ou soit. Donc bandana c'était munitions illimitées, tu refaisais le jeu, tu débloquais un truc pour être invisible, puis après tu le refaisais, enfin t'avais
un
des
carton.
Choix à faire. Ouais, un carton pour se.
Et le mode entraînement.
Ouais, j'ai toujours trouvé ça très subtil, la manière dont on faisait la dénonciation des SDF par le biais du jeu vidéo, justement. Le fait que, hop, tu te mets dans un carton, plus personne te voit, quoi. Comme pour les SDF, en fait. Ce prétexte qu'ils sont sur un carton, on les voit plus.
C'est Raph et notre esprit philosophe de l'émission. C'est parfait.
Monster Hunter Freedom.
That's right.
Yes. Unit. Deux.
Celui-là, c'est le main theme. Alors pour moi, il doit être commun à plusieurs épisodes.
Yes.
Même
que moi pour trouver ça.
Moi, ce que j'aime, c'est que tu vois, j'ai pas beaucoup joué à Monster Hunter, mais je trouve que la musique, elle déboîte.
C'est généralement vrai. Les jeux univers, les musiques déboîtent.
Et en plus, le jeu déboîte. Et en plus, il est sur console portable. Enfin, pas le dernier là, qui est sorti, qui a l'air super beau d'ailleurs au passage. Ils ont vraiment retravaillé complètement la mécanique du jeu. Sur PS4, ils ont rajouté pas mal de choses. Très immersif aussi. Très cher aussi, malheureusement.
Tu aimes vraiment les tambours?
J'adore les tambours.
J'avoue, c'est la troisième.
C'est Skyrim.
Ouais, bah oui. Bah oui.
Forcément.
Tu ne laisses aucune chance aux autres. Faut qu'est-ce que...
Parce que tu crois que Zoé et Manon, elles nous laissent des chances quand c'est des chansons classiques?
C'est vrai.
Je me suis dit que Morrowind serait peut-être un peu plus compliqué. Skyrim derrière.
Mais Paul et Blaise, toutes ces chansons, vous les reconnaissez après coup ou vraiment?
Ah non, pas du tout.
Et pourtant, vous avez joué à ces jeux?
Non, non.
Ah, bah d'accord.
On n'a pas joué du tout au même jeu, en fait.
C'est ça. Vous jouez à quoi, vous?
Si on dit qu'il y a une culture geek et qu'on en a chacun une, bah, c'est un bon exemple.
Tu joues à quoi, Paul?
Bah, plein de trucs, mais pas. Enfin, si, j'ai joué à ces jeux-là, mais.
Mais Paul n'était pas forcément prévu au programme, du coup, je
voilà,
ne l'ai pas trop sélectionné.
C'est pas une playlist.
Blaise, bon. Normalement, devrait en trouver deux, trois.
Ça dépend. Si tu mets la musique du dernier Uncharted, ou ce genre de choses, peut-être.
Pas tout de suite, monsieur est PS4. Hein.
C'est un autre débat.
Zelda.
Legend of Zelda. Ocarina of Time.
C'est Paul qui a...
C'est Paul. Hein,
oui,
c'est
je
Paul.
Sais, j'ai vu.
Et là, Blaise, il est dégoûté qu'il s'était...
Non, mais tout le monde a répondu en même temps. On a tous des points, non?
Ouais. Je prends le point.
Mais t'aurais dû en prendre une en particulier, parce qu'on a tellement à y avoir joué.
Que, ouais, un moment.
Et il y a tellement de thèmes.
Après, j'ai essayé de faire aussi... pour que ça parle à tout le monde.
Pardon. Je change.
Non, mais c'est bien.
Ah, okay.
Mais c'est quand même un petit peu...
Ouais, écoutez un peu la nostalgie qui revient.
Bah non, c'est Link to the Past, en fait.
Ouais, c'est pas Ocarina, ça.
Ouais.
Le maître a dit suivante.
Sonic.
Voilà.
Là, c'est serré.
Ouais, c'est ça. Mais c'est à Boris le point.
Sûr?
Ouais, ça.
Ils sont fair play.
On a reconnu en même temps, mais je bégayais toujours un petit peu quand je reconnais quelque chose, alors c'est pour lui le point.
Ça a fait quoi, là, du coup? Sonic?
Si mon coloc Marcus écoute l'émission, il est en train de pisser partout.
Green Hill Zone.
Ça va être sympa en rentrant.
On va pouvoir s'en mettre quelques petites après. Bon, la prochaine, c'est rapidité. Attention. Soyez prêts.
Tetris.
Non. Street Fighter.
Mais, quel thème?
Ken.
Non.
Ryu.
Non.
Zombie.
Ah non, c'est Gail.
Bah voilà.
Ah,
c'est Gail. Je vous ai déjà mis deux thèmes avant, c'était Ryu et Ken.
Ultra nul.
Bon, la prochaine aussi, c'est de la rapidité. Soyez prêts.
Mario.
Ouais, oui. Polo remonte.
Tu vois, il y a un univers Sonic et un univers Mario. Voilà.
Nintendo.
Ah bah, de toute façon, à l'époque des années 80, la guerre des consoles entre Sega et Nintendo, c'était terrible. À côté, la guéguerre entre Sony et Microsoft, c'est de la pisse de chat. Hein.
Complètement. D'ailleurs, ça se voit parce qu'on reconnaît Mario et Zelda, mais dès que c'est Sonic et tous les jeux PlayStation, en fait, on est perdu, quoi.
Ah, Sonic, c'était Sega.
Pardon.
La prochaine aussi, c'est de la rapidité. Vas-y, Boris.
Tetris.
Ouais, ben voilà.
Je l'ai dit tout à l'heure. Parce que j'étais
là,
trop rapide.
Ouais, t'étais en avance.
T'avais fait un bond dans le temps.
T'étais dans le futur.
Est-ce qu'on va avoir la musique de Pong? Ah, y a pas de musique dans le jeu, c'est vrai.
Allez, on peut encore s'en mettre 2-3. Celle-là sera plus difficile.
Oui, GTA.
Hey, bien Polo.
Même moi j'ai voulu dire.
Et lequel?
Ouais, San Andreas.
C'est ça. Ouais. Point pour Polo. Ouais.
Du coup c'est ça. Pourquoi Vice City ou San
Vice
Andreas?
City.
J'ai mis San Andreas.
San Andreas.
Voilà. Et j'ai écouté justement, j'ai réécouté les différents thèmes et je trouvais que celui-là, pour avoir passé du temps sur les trois derniers, sur les cinq en fait derniers, je trouvais que c'était le plus parlant. Next Boris. Ouais, c'est pour Blaise.
Ah, Binding of Isaac.
Voilà.
Super jeu, putain.
Jeu indé d'ailleurs.
Parce que si t'avais pas dit ça, t'aurais dit le truc aussi.
Non, j'ai tellement passé d'heures dessus.
Combien?
Je peux pas oublier. Je pense que je dois être à 250-300 heures dessus.
Ouais, je pense.
Petit joueur.
Ouais, non mais.
J'ai un coloc qui est pas loin des 1500.
Je suis un casu, je le rappelle pour les. Les auditeurs.
Casual. C'est-à-dire que c'est un geek qui se dévalorise par rapport à des personnes qui passent plus de temps que lui.
Non, qui replonge, en fait, facilement. Mais.
Pour le coup, ce jeu, il est un peu addictif. Faut le recommencer tout le temps.
Complètement.
Allez, on va s'en mettre une petite dernière.
Final Fantasy.
Mais lequel?
Le 10.
Très bien.
C'est lui auquel j'ai pas
c'est
joué.
C'est la dernière?
La balade de Yuna.
Je crois qu'il en a encore une petite en
y a,
stock.
Il y a encore deux chansons en stock.
Allez, oui, on se dépêche.
Allez, on se les met alors.
Final Fantasy 7.
Eh ben non, les
non,
gars.
8. 8.
Voilà.
Ah, oui. 8.
Point
mais
pour
oui,
ça.
Bien sûr.
Ouais, désolé, hein, c'est moi qui ai fait les... la sélection, j'ai pris quand même ce que j'aime.
C'est la musique d'ouverture d'ailleurs du jeu.
C'est
où
ça.
On a de superbes combats entre Scroll et Cypher.
C'était avec une vidéo de
Steiner.
Folie pour les
gens. C'est ce que j'allais dire, une superbe cinématique. Ouais, prenez plein les yeux. Quoi.
Oh, c'est cinématique qui a reçu des prix pendant des festivals d'animation.
Ouais, et puis même les musiques étaient géniales avec, c'était fou. Hein.
Final Fantasy, les musiques ont toujours été géniales.
Bon, et la dernière du coup?
Pour la fin, un peu plus compliqué. Moi,
c'est peut-être Suyanomura.
Megaman.
C'est
deux.
Ça. Oh, yeah. C'est ça, bien joué.
J'aime bien. Ah, mais tiens, victoire ouais, écrasante de Boris.
Allez,
qui va tous nous inviter à prendre un verre pour fêter ça. T'as même pas mis Minecraft. Comment t'as pu me faire ça?
En fait, elle passait pas bien sur les ondes, je trouvais.
Ah bah, moi, j'y ai passé du temps, tu vois.
et j'irai pousser ou c'est la chanson de Willy Castle.
Non, mais.
Tout Sims.
Remboursé. Ah, j'ai jamais.
On pourra refaire un blind test complet sur une émission si vous voulez.
Avec plaisir.
Metroid, enfin, on est passé à côté de tellement de choses.
On est passé à côté de plein de choses.
Bon, en tout cas, moi je vous remercie les gars, je pense qu'on a passé un bon moment. Tu vas pouvoir nous mettre quand même la dernière pour la fin. Qui reconnaît?
Ça me dit quelque chose, mais pour le moment je l'ai pas.
Je PC.
Oui. C'est un RPG.
Il y en a eu 3.
Dragon Age.
9.
Diablo.
Dark Souls.
C'est ça.
Ouais. Diablo.
Diablo, ouais, la musique de Tristram. Tristram, pardon, le village de départ. Donc, c'est déjà la fin. Bien joué, Polo, quand même.
Merci.
C'est déjà la fin. Merci beaucoup à vous. Non, non, tu peux monter le son, là. Parce que, voilà, faut s'imprégner, quand même, des choses. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés sur Radio Primitive. Merci les amis. Vous pouvez retrouver nos podcasts sur notre page Facebook qui s'appelle Radiocratie tout simplement. Merci à Boris en régie. Merci à Blaise, à Seraph, à Polo, à Simon qui n'est pas là, mais je lui dis merci quand même, parce qu'il m'a mis un petit coup de pression comme ça avant le début de l'émission. Merci à Titi qui m'a fait confiance. Merci à Margot, notre petite intervenante.
Oui, nationale.
Voilà, c'est ça. On était en direct depuis le studio et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission musicale. Et tout de suite, c'est l'Egrégor et toute son équipe. On leur laisse la place en studio. Donc restez à l'antenne. À la semaine prochaine pour la 117e, c'est ça? En attendant, bonne soirée, bonne semaine. Portez-vous bien et ciao! Bisous, bisous.